Canadien errant, banni de ses foyers, parcourait en pleurant des pays étrangers, un jour triste et pensif.
Annexe. Qui était Delorimier? Dans Les Patriotes de 1837-1838, Laurent Olivier David consacre un long chapitre à la figure du chevalier Delorimier et inclut même quelques lettres non reproduites précédemment. Marie-Thomas Chevalier Delorimier descendait d'une noble famille française qui resta au Canada après la cession et consentit même à accepter des emplois sous le gouvernement anglais. Il naquit en 1805 à Montréal, eut des succès au collège, étudia la loi sous M. Richaud et devint son associé, son ami et le protecteur de sa famille. En 1832, il épousait Mademoiselle Henriette Cadieux, fille aînée de M. Cadieux, l'un des notaires les plus estimés de Montréal. Nous pourrions répéter ce que nous avons dit de Cardinal. Il avait tout ce qu'il faut pour aimer la vie, pour être heureux. Tout lui souriait. Pas une ombre ne paraissait planer sur son avenir. Mais des natures chevaleresques comme celle de Delorimier, des caractères aussi généreux, aussi ardents, des âmes aussi susceptibles de dévouement pour le triomphe d'une grande idée, d'un noble sentiment, sont toujours en danger. Delorimier était de cette éternelle famille des martyrs qui meurent, depuis que le monde existe, pour toutes les saintes causes, la religion, la patrie, la liberté, le bonheur et le progrès de l'humanité. Il n'aurait pu, l'eût-il voulu, s'empêcher de prendre part à la lutte que la Chambre d'Assemblée soutenait contre une bureaucratie violente et tyrannique. Présent à toutes les assemblées, toujours au premier rang dans les élections, les discours de Papineau l'exaltaient, les propositions les plus énergiques avaient son approbation. Dans les élections du quartier ouest de Montréal en 1832, élections où les bâtons, les pierres et les balles jouèrent un si grand rôle, Delorimier fut un des partisans les plus enthousiastes et les plus utiles du candidat des Patriotes, M. Tracy. Plus d'une fois, sa vie fut en danger. Un jour, une balle brisa le manche du parapluie qu'il portait à la main. Il prit encore une part encore plus active aux élections générales de 1834, en faveur des candidats qui approuvaient les 92 résolutions. Nommé secrétaire de presque toutes les assemblées qui précédèrent l'insurrection et du comité central chargé de surveiller les actes du gouvernement et de diriger les comités de la campagne, il déploya une grande activité et un esprit remarquable d'organisation. Santé, repos, clientèle et fortune, il sacrifia tout à la cause libérale. Dans la bagarre qui eut lieu entre le Doric Club et les Fils de la Liberté, il se conduisit bravement et reçut une balle dans la cuisse. Lorsque les mandats d'arrestation furent émis, il s'en alla dans le comté des Deux-Montagnes se mettre sous les ordres de Chénier pour organiser la résistance. Il était à Saint-Eustache le 14 décembre, mais, voyant que la résistance était inutile, il fut un de ceux qui conseillèrent à Chénier de mettre bas les armes. Quand il vit que ses instances étaient inutiles, il partit pour Saint-Benoît et de là se dirigea vers les États-Unis en passant par Trois-Rivières. Il était l'un des chefs de l'expédition du 27 février, que les autorités américaines firent avorter en arrêtant les armes et les munitions des patriotes. Il retourna à Plattsburgh, où sa femme alla le rejoindre et vécut avec lui jusqu'au mois d'août. Il rentra plusieurs fois dans le pays pour visiter les patriotes des Deux Montagnes et de Beauharnois et préparer le mouvement du mois de novembre 1838. Personne, plus que lui, n'était convaincu du succès de ce mouvement. Personne ne croyait avec plus d'enthousiasme à la réalisation du beau rêve qui lui faisait entrevoir l'indépendance du pays. Il communiquait aux autres sa confiance et leur inspirait l'ardeur qui l'animait. Il était à Beauharnois le 3 novembre, lorsque les bureaucrates de ce village furent arrêtés et que les patriotes s'emparèrent du bateau à vapeur Brougham. Il passa plusieurs jours au camp Baker où les patriotes reçurent l'ordre de se concentrer à Napierville. Mais rendus à La Pigeonnière, ils apprirent la défaite de Robert Nelson à Odelltown et décidèrent de se disperser. Les uns retournèrent à Beauharnois et les autres, sous la conduite de Delorimier, se dirigèrent vers les États-Unis. Près de la frontière, Delorimier et ses compagnons passèrent à une portée de fusil d'un corps de garde qui tira sur eux. Delorimier, au lieu de continuer son chemin avec les autres, eut la malheureuse pensée de revenir sur ses pas. Il s'égara et fut arrêté le matin du 12 novembre. Conduit à pied à Napierville et de là à la prison de Montréal, il comparaissait devant la cour martiale le 11 novembre avec les chefs du soulèvement de Beauharnois. C'était Jean-Baptiste Bryan, médecin, Ignace Gabriel Chèvrefils, cultivateur, Louis Dumouchel, hôtelier de Sainte-Martine, Toussaint Rochon, voiturier, et Jacques Goyette, tous deux de Saint-Clément, François-Xavier Prieur, marchand de Saint-Timothée, Joseph Wattier de Soulanges, Jean Laberge, charpentier, et François-Xavier Touchette de Sainte-Martine. Le procès dura du 11 au 20. Pendant 9 jours, les patriotes furent sur la sellette, au pilori, en butte à la mauvaise volonté des juges, à la vengeance des témoins et à la haine et au mépris de ceux qui les entouraient. Tous les matins, quand ils arrivaient à la cour, et le soir, quand ils en partaient, une foule de fanatiques enragés les accueillait par des hurlements de bulldogs et des vociférations de cannibales. C'est à Delorimier qu'on en voulait surtout. C'est sur lui qu'on s'acharna pour le faire trouver coupable. Le juge avocat, M. D, le prit à partie dans son adresse à la cour martiale et le représenta comme un homme des plus dangereux, l'un des fauteurs de la rébellion, celui qui méritait le plus de mourir sur l'échafaud. Les journaux bureaucrates annoncèrent avec plaisir que Delorimier serait condamné. Ils ne se trompèrent pas. Tous les accusés furent condamnés à mort, mais Delorimier seul fut exécuté. Le 12 février, pendant la soirée, les condamnés qui, depuis 3 semaines, s'attendaient tous les jours à ce qu'on les avertît de se préparer à monter sur l'échafaud, apprirent que les autorités avaient fait une commande de 7 cercueils. Il y en aurait donc 7 d'exécutés. Les 7 premiers sur la liste, savoir Delorimier, Bryan, Dumouchel, Rochon, F.X. Prieur, Wattier et Laberge. Quoique habitués à l'idée de mourir sur l'échafaud, les prisonniers dormirent mal dans la nuit du 12 au 13. Ces cercueils leur firent faire de mauvais rêves. Le lendemain, à 3 heures, ils apprirent que les juges avocats venaient d'entrer au bureau du geôlier pour signifier aux victimes choisies que le jour de l'exécution était fixé au vendredi suivant. On était au mercredi. La vie était courte. Nous croyons devoir laisser maintenant M. Prieur raconter le dernier acte de ce drame émouvant. Quelques instants après, la porte de notre prison s'ouvrit et le geôlier, s'arrêtant au milieu de la porte ouverte par son aide, appela « Charles Hindelan ». Environ 10 minutes après, la porte s'ouvrit de nouveau et le geôlier appela « Chevalier Delorimier ». Celui-ci sortit avec les gardiens et la porte se referma une seconde fois. J'étais occupé au fond de la salle à faire cuire quelque chose dans une casserole. Je m'entendis appeler. Laissant là mon ustensile, je me rendis auprès du geôlier en disant à mes compagnons « C'est mon tour ». Mais le geôlier me dit en anglais « Ce n'est pas vous que j'ai appelé, c'est monsieur le pailleur, et c'est simplement pour lui remettre des provisions que lui envoient ses parents ». Nos deux malheureux compagnons, Delorimier et Indelang, revinrent bientôt vers nous et nous dirent, en entrant dans le groupe que nous avions formé pour les recevoir, « Réjouissez-vous, nous sommes les deux seules victimes choisies dans cette section. » Mais il y en a trois prises dans les autres parties de la prison. Ce sont Rémi Narbonne, François-Nicolas et Aimable Donnet. Il y avait, en ce moment, au milieu de nous, deux dames, parentes de l'infortuné Delorimier, sa sœur et sa cousine, accompagnées d'un monsieur de la famille. Ces pauvres dames fondaient en larmes. La victime les consolait par des paroles angéliques pleines de foi et de résignation. « Mon sacrifice est fait, » disait-il, « et j'ai l'espoir d'aller vers mon Dieu. Une seule chose assombrit mes derniers moments. C'est la pensée du dénûment de ma femme et de mes enfants, mais je les confie à la divine providence. » Vers 6 heures du soir, les guichetiers vinrent nous dire qu'il fallait entrer dans nos cachots. Nos visiteurs se retirèrent alors, la douleur dans le cœur. J'ai déjà dit que nous étions deux par deux. Le compagnon de cachot de Delorimier avait été jusque-là le docteur Bryan. Dans ce moment, celui-ci vint me prier de vouloir bien changer de cellule, disant qu'il ne se sentait pas la force de partager le cachot de la victime. Ah, c'est que, voyez-vous, il y avait un remords dans la conscience de ce malheureux qui avait obtenu un demi-pardon au prix honteux de la délation, comme nous l'apprîmes plus tard. On conçoit, en effet, quel voisinage ce devait être pour lui que celui de l'homme qui allait mourir victime de sa trahison. Je devins, donc, le compagnon de cellule de chevalier Delorimier. Le soir, son confesseur vint le voir et demeura seul avec lui pendant 1 heure, durant laquelle je me retirai dans le corridor. En sortant de ce sublime tête-à-tête du chrétien repentant avec l'homme du pardon, Delorimier était calme. Sa figure semblait même respirer une douce gaieté. Nous fûmes de nouveau renfermés ensemble. Je priai avec lui une partie de la nuit, puis nous nous endormîmes paisiblement l'un à côté de l'autre. Le matin, je le trouvai tranquille et reposé. Il pria longtemps, puis il me parla longuement de sa femme et de ses enfants. Il les confiait à la Providence. C'est à peine si je pouvais répondre à sa parole si touchante, si résignée, si chrétienne, tant l'émotion me dominait. Lorsque les cellules furent ouvertes le matin à l'heure ordinaire de 10 heures, tous les regards se tournèrent, avec un intérêt mêlé de tristesse, vers les deux victimes que le jeune Guillaume Lévesque, compagnon de cachot de Indenlang, et moi, compagnon de Delorimier, conduisîmes par le bras vers les groupes discrètement formés de nos camarades d'infortune. Delorimier était résigné et digne, Hindenlang courageux et bruyant. Je préparai quelque chose pour notre déjeuner, mais Delorimier mangea peu. Il se promenait d'un pas mesuré dans le corridor et souvent nous parlait de sa femme, qui devait le venir visiter dans l'après-midi. Il redoutait cette entrevue pour son infortunée compagne. Vers les 3 heures de l'après-midi, Madame Delorimier, accompagnée de la sœur et de la cousine de son mari, et conduite par un monsieur Delorimier, cousin du condamné, entrèrent dans notre cellule. Madame Delorimier portait sur sa figure une expression de douleur à fendre le cœur, mais elle ne pleurait pas. Ses deux compagnes fondaient en larmes. Nous avions pris des arrangements pour donner à nos deux malheureux amis un dîner d'adieu. La table, chargée de mets préparés sur notre ordre par le geôlier, avait été placée dans une pièce située près de la porte et qui donnait sur le corridor. À 4 heures, on se mit à table. Indenlang présidait au banquet. Delorimier n'occupa pas le siège qui lui était réservé, mais il vint prendre avec nous un verre de vin. Pendant le repas, il se promenait dans le corridor, ayant Madame Delorimier au bras. Les autres membres de sa famille occupaient des sièges, tantôt dans sa cellule, tantôt dans le corridor. Les dames, de temps à autre, prodiguait à la malheureuse épouse des paroles de consolation. Il régnait à notre table une certaine gaieté triste qu'Indenlang, pour sa part, rendait parfois bruyante. Pendant ces instants de récréation, furent admis par les autorités de la prison 6 curieux, parmi lesquels, me dit-on, se trouvait le rédacteur du journal The Herald. Ils se tinrent en dedans, près de la porte, visiblement étonnés de l'aspect de cette scène. Après s'être fait indiquer ceux qui devaient, le lendemain, monter sur l'échafaud, ils se retirèrent, sans mot dire. Un instant après, on vint nous dire que Madame de Lorimier venait de perdre connaissance. Elle gisait en ce moment dans un état de complet évanouissement dans le cachot de son mari. Le confesseur de Delorimier vint au commencement de la soirée et passa quelque temps seul avec lui dans sa cellule. Puis il dit « Courage » aux deux victimes, offrit quelques paroles de consolation à Madame Delorimier et prit congé de tous. On nous avait laissé, les deux condamnés, Monsieur l'évêque et moi, en dehors de nos cellules plus longtemps que d'ordinaire. À 10 heures, le geôlier vint nous dire qu'il fallait entrer. C'était le moment que ce pauvre Delorimier redoutait tant, et que nous aussi, nous voyions venir avec un déchirement de cœur. Quelques parents et amis étaient venus s'ajouter aux 3 personnes de la famille qui accompagnaient Madame Delorimier, et qui devaient être chargées de la pénible mais charitable mission de la reconduire en ville. La pauvre jeune femme allait donc dire à son mari un éternel adieu. À la suite de bien des hésitations, de sanglots et de larmes, elle se jeta à son cou et s'évanouit de nouveau. Delorimier la souleva dans ses bras et, la tenant comme un enfant qu'on va déposer dans son berceau, il se dirigea vers la porte, les yeux attachés sur cette figure agonisante de la compagne de sa vie. Arrivé sur le seuil, il déposa un baiser sur le front décoloré de sa femme, la remit entre les bras de ses parents et leur recommanda d'en avoir tous les soins possibles, et la porte se referma sur nous. Delorimier me dit, en regagnant l'entrée de notre cachot, « Le plus fort coup est donné. » Il était ferme, mais pâle comme la mort. Il passa une partie de la nuit en prière et à écrire une lettre qui était comme son testament politique. Puis il se coucha. Je veillai près de lui. Il dormit à peu près 3 heures, fort tranquillement. Vers les 7 heures, vendredi 15 février 1839, son confesseur arriva. Il venait lui apporter le saint viatique et devait attendre pour l'accompagner à l'échafaud. Le condamné reçut la divine communion avec ferveur dans son cachot, où il demeura jusqu'à 8 heures, en action de grâce avec son confesseur. Le temps était venu pour Delorimier de se préparer à marcher au supplice. Le prêtre se retira pour quelque temps. Ce fut moi qui aidai mon malheureux ami à faire sa toilette de victime. Comme je lui fixais au cou une petite cravate blanche, il me dit « Laissez l'espace nécessaire pour placer la corde. » Les larmes me partirent en torrent des yeux. Aussitôt que sa toilette fut terminée, Delorimier sortit du cachot et, s'adressant à tous les prisonniers, leur demanda de dire en commun la prière du matin. Ce fut lui-même qui la fit d'une voix haute, ferme et bien accentuée. À l'invitation de Delorimier, Hindenlang, qui jusque-là était resté dans sa cellule, en sortit et se joignit à nous pour assister à la prière. Il ne se mit pas à genoux comme les autres, mais il se tint tout le temps debout, la tête inclinée en avant et les mains jointes sur la poitrine. Oh, comme nous le plaignîmes alors, et comme nous remerciâmes Dieu de nous avoir fait la grâce d'appartenir à son Église sainte. À la suite de la prière, les deux condamnés prirent une tasse de café. J'avais demandé à nos infortunés amis de me laisser comme souvenir quelque chose venant directement d'eux. Ce fut alors que chacun me remit une mèche de ses cheveux. Ceux de Delorimier étaient contenus dans un billet dont voici la copie. Prison de Montréal, 15 février 1839. Cher prieur, vous me demandez un mot pour souvenir. Cher ami, que voulez-vous que je vous écrive? Je pars pour l'échafaud. Soyez courageux, et je meurs votre ami. Adieu, chevalier Delorimier. À 8h15 environ, le geôlier, accompagné de quelques officiers militaires, de plusieurs soldats et d'un bon nombre de curieux, vint chercher les deux victimes. Delorimier, en voyant apparaître ce cortège, dit au geôlier d'une voix ferme « Je suis prêt ». Il m'embrassa, salua tous les amis auxquels il avait déjà dit adieu et partit avec son compagnon Hindenlang. De grands efforts avaient été faits pour sauver Delorimier. Tout avait échoué. Delorimier avait adressé au gouverneur Colborne une requête lui demandant de retarder au moins de quelques jours l'exécution de sa sentence, afin de lui permettre de régler certaines affaires importantes qui lui avaient été confiées en sa qualité de notaire. Il disait dans cette requête que plusieurs riches familles avaient mis entre ses mains l'avenir de leur fortune et qu'il ne voulait pas mourir sans justifier la confiance qu'elles avaient mise en lui. « Ce n'est pas un pardon que je demande, » disait-il. « Je sais que je ne puis y compter. C'est un répit, un délai de quelques jours. J'ai fait le sacrifice de ma vie. J'ai fait ma paix avec mon Créateur et je suis prêt à paraître devant mon Dieu. Mais averti seulement hier que je n'avais plus que 3 jours à vivre, je n'ai pas le temps de régler mes affaires et cette pensée est la seule qui trouble ma conscience et mon esprit. » Que votre Excellence remette au jour qu'il lui plaira l'exécution de ma sentence, et je mourrai content et convaincu que je pars pour un monde meilleur où la tyrannie n'est pas connue. » Madame Delorimier avait, elle aussi, adressé au farouche gouverneur une requête à laquelle il ne répondit pas. Elle disait dans cette requête, écrite en termes touchants, que l'affection qu'elle portait à son mari infortuné et l'intérêt de ses 3 pauvres petits-enfants, dont l'aîné n'avait que 4 ans, l'engageait à s'adresser à son Excellence pour implorer sa pitié et sa miséricorde. « Votre requérante, disait-elle, n'avait pour vivre et supporter ses pauvres petits-enfants que le produit du travail et de la profession de leur père. Elle ne peut, sans la plus grande anxiété, pensez au moment fatal où elle sera laissée seule sans aucun moyen d'existence. Votre requérante n'a pas l'intention de faire l'éloge des vertus de son mari, de parler des services que sa famille a rendus au gouvernement anglais pendant longtemps. C'est comme épouse et comme mère qu'elle s'adresse à votre Excellence. Au moment où elle est menacée de perdre celui pour lequel elle a une affection dont ses paroles ne peuvent donner l'idée. » Delorimier monta sur l'échafaud d'un pas ferme et ne donna jusqu'au dernier moment aucun signe de faiblesse. Lorsque Hindenlang prononça le discours qu'il termina par le cri de « Vive la liberté !», Delorimier sourit plusieurs fois et approuva de la tête les paroles enthousiastes de son compagnon d'infortune. Hindenlang avait à peine fini de parler que le signal était donné et la trappe tombait. Delorimier avait cessé de vivre. La patrie avait perdu l'un de ses plus nobles, de ses plus généreux enfants, un homme dont le nom vivra et sera honoré aussi longtemps qu'il y aura dans le cœur des Canadiens français le sentiment de l'honneur, du patriotisme et de l'amour de la liberté. Le jour où notre population aura cessé d'admirer ce qu'il y avait de grand, de sublime dans l'âme de Delorimier, elle ne méritera plus de vivre. Dernière parole et dernière volonté de Delorimier. Lettre de Delorimier à sa sœur après son emprisonnement. Montréal, prison neuve, 20 décembre 1838. Ma chère sœur, Notre prison offre aujourd'hui un aspect terrible. Immédiatement sous nos yeux, les valets altérés de sang d'un gouvernement cruel et despotique s'occupent joyeusement à dresser l'échafaud sur lequel doivent périr deux de nos braves compatriotes, qui seront suivis d'un plus grand nombre. Les deux infortunés et généreux patriotes qui doivent être sacrifiés demain sont messieurs Joseph Narcisse Cardinal, notaire public, et Joseph Duquette. François-Maurice Lepailleur et Maurice Thibert, qui ont été condamnés dans le même temps, ont obtenu un sursis. Ils sont tous de Châteauguay. À chaque minute, je m'attends à être séparé de mes compagnons de prison et d'être mis dans une autre pièce pour y attendre mon procès qui aura probablement lieu bientôt. L'échafaud dressé devant moi ne jette pas de terreur dans mon âme, car depuis longtemps je suis résigné à mon sort. La plateforme est érigée au-dessus de la porte principale de la prison. On la peut voir de la rue, près des grands arbres qui sont au sud. J'espère que, lorsqu'arrivera le jour où le sanguinaire gouverneur de cette province ordonnera qu'on m'ôte la vie sur l'échafaud, toute ma famille et tous mes amis viendront me voir rendre le dernier soupir. Ce que je ferai avec joie, pour relever mon pays de sa dégradation politique actuelle. Je prends la liberté de les inviter dès maintenant, peut-être ne l'aurai-je pas plus tard. Je puis les assurer qu'ils n'auront pas lieu de craindre que je montre un signe de faiblesse, mais qu'au contraire, ils me verront calme et serein, marcher avec courage vers ma tombe prématurément creusée. J'ai dit que depuis longtemps je suis préparé au sacrifice de ma vie. Oui, pour ma part, le sacrifice est volontairement fait. Mais il y en a un plus grand que je ne puis faire. Et je crains de ne le pouvoir jamais. C'est d'avoir à abandonner une femme et des enfants que je chéris, que j'idolâtre et que j'estime mille fois plus que mon existence en ce monde. Comment puis-je volontairement renoncer à l'attachement qui me lie à eux? C'est complètement impossible, hélas. Comment ma chère et bien-aimée Henriette va-t-elle recevoir le coup terrible qui l'attend? Je souhaite, ma chère sœur, que vous essayiez tous les moyens de la consoler et de la porter à jeter le voile noir de l'oubli sur la mémoire d'un époux qui l'aimait si tendrement. Mais, ô Dieu, que dis-je? Non, non, elle n'oubliera jamais son malheureux et tendre époux. Non, elle gardera sacrée la mémoire de son compagnon bien-aimé. Mais que va-t-elle devenir, elle et mes chers petits-enfants? Quel sera leur sort? Je vais les laisser sans fortune, sans protection. Qui les soutiendra? Oh Dieu, ces pensées rendent mon agonie terrible. À qui puis-je recommander ces tendres objets de mon amour? Oh, mes compatriotes, je vous confie mes enfants. Je meurs pour la cause de mon pays, de votre pays. Ne souffrez donc pas que ceux que je suis obligé de quitter souffrent de la pauvreté après ma mort. C'est probablement, ma chère sœur, la dernière fois que je pourrai vous écrire. Recevez donc, ma chère sœur, le dernier adieu de votre frère, le plus affectionné, le plus infortuné. Mes tendres amitiés à tous mes amis. Soyez tous heureux. Conservez votre courage. Quant à moi, je suis calme et plein de force. Adieu pour toujours. Votre tendre frère, Chevalier de Lorimier. Lettre écrite par de Lorimier à un ami. Montréal, prison neuve, le 12 février 1839. Mon cher ami, je n'ai plus que deux devoirs à remplir. Le premier, c'est de me tenir prêt pour le long voyage de l'éternité. Le second, d'écrire à mes amis et de leur faire mes derniers adieux. Quand un homme est attaché à ce monde par des liens aussi forts que ceux qui m'y retiennent, il est bien dur pour lui de mourir avant sa fin naturelle. Mais le sacrifice n'est pas aussi pénible qu'on pourrait le croire, quand on n'a pas considéré sa mort prochaine. Plus nous pensons que la mort est proche, moins nous trouvons dur de mourir et plus nous nous sentons résignés à notre sort. Si beaucoup d'hommes craignent, c'est qu'ils n'ont pas sérieusement pensé à mourir. Je suis ferme et tout à fait déterminé à mourir comme un homme qui sacrifie sa vie à une bonne cause. Je remercie le ciel de m'avoir donné autant de courage. Je ne pouvais entreprendre ce long voyage vers l'éternité sans vous remercier des nombreux services que vous m'avez rendus. Permettez-moi, avant de vous quitter pour toujours, de vous assurer que je vous ai toujours estimé comme un ami et de vous exprimer aussi ma reconnaissance des secours que vous m'avez apportés durant mon malheureux emprisonnement. Puisse la Providence vous donner sur cette terre de misère une carrière longue et heureuse. Puissiez-vous voir le jour où le sort cruel des nombreux martyrs qu'a fait notre sanguinaire et barbare gouverneur Sir John Colborne aura sa complète revanche sur les coupables qui ont versé le sang innocent. Puissiez-vous prospérer autant que vous le méritez et vous rappeler quelquefois la mémoire de votre ami, malheureux, mort, sur l'échafaud, pour racheter son pays opprimé. Adieu pour toujours. Votre ami sincère et dévoué, Chevalier de Lorimier. Lettre écrite par Delorimier à un ami qui avait montré beaucoup de bienveillance et d'égard à sa femme et à ses enfants pendant son emprisonnement. Montréal, prison neuve, 14 février 1837, 10h AM. Cher monsieur et estimable ami, vous et votre femme m'avez témoigné tant de bienveillance pendant ma cruelle captivité que je me sens très obligé envers vous. Ce que je ne pourrai surtout oublier, même au-delà de la tombe, c'est votre bonté pour ma malheureuse femme et mon fils chéri. Veuillez accepter mes plus sincères remerciements. Dans quelques jours, je ne serai plus. Mais je me flatte que j'emporterai avec moi, dans l'autre vie, un cœur que l'ingratitude n'aura jamais souillé. Vous avez été pour moi un ami véritable et dévoué, et vous avez généreusement assisté la femme éplorée d'un homme qui souffre dans les cachots pour la cause sacrée de la liberté de son pays. Puisse le Dieu Tout-Puissant vous récompenser comme vous le méritez et vous accorder ses bénédictions et sa protection. Mon dernier soupir sera pour ma patrie, ma femme et mes enfants et les bonnes âmes qui les ont secourus dans leur malheur. Si dans le monde des esprits, il m'est donné de voir vos mérites et votre bonté envers des orphelins, j'offrirai pour vous, au roi du ciel, les prières les plus ardentes. Assurez votre belle-sœur et sa charmante fille de ma plus tendre amitié. Soyez heureux, vous et votre femme. C'est le vœu d'une âme malheureuse mais patriotique, qui, dans quelques heures, défiera les tortures des tyrans anglais et ira dans l'éternelle demeure des justes où les tyrans ne sont jamais admis. Adieu, adieu pour toujours. Prenez courage, notre pays sera délivré du joug de l'Angleterre. Vous verrez cela, mais moi... Adieu, encore une fois, pour toujours. Je ferme cette lettre. Gardez-la comme souvenir. Chevalier de Lorimier. Lettre écrite par Delorimier le jour de son exécution à une dame qui lui avait demandé d'écrire dans son album quelques lignes qu'elle garderait comme souvenir. Montréal, prison neuve, 15 février 1839, 5h du matin. Vous voulez, madame, que j'écrive un mot dans votre album? Que puis-je écrire? Je vous le demande. Vais-je abandonner mon âme à des sentiments de regret, à de tristes pensées? Vous diriez que ces sentiments ne sont pas dignes d'un homme qui meurt pour la liberté de son pays. Vous dirais-je, pour vous attendrir, tout ce que j'ai souffert dans mon cachot depuis que je suis tombé dans les mains de mes cruels ennemis? Ce serait, comme je viens de le dire, peu digne de la position que j'occupe devant le monde. Vous m'avez visité dans ces noirs cachots où les rayons du soleil sont inconnus aux pauvres victimes de la tyrannie anglaise. Il n'est pas nécessaire de parler ni d'écrire pour faire comprendre l'état le plus misérable auquel la nature humaine puisse être réduite. Vous dirai-je tout le respect que j'ai pour vous quand vous en avez eu tant de preuves? Cependant, ce serait honteux de ma part de ne pas me rendre à vos désirs. Permettez-moi alors, madame, de vous demander une faveur. C'est de garder une place pour moi dans vos pensées, après que l'heure terrible du sacrifice sera passée. Quand je serai parti, vous vivrez encore. Dans 4 heures, je mourrai sur l'échafaud érigé par les ennemis de notre chère patrie. Oh, quels mots enchanteurs je viens de prononcer! Ma patrie, oh ma patrie, à toi j'offre mon sang, comme le plus grand et le dernier des sacrifices que je puisse faire pour te délivrer du joug odieux de tes traîtres ennemis. Puisse le Tout-Puissant agréer mon sanglant sacrifice. Vous verrez des jours meilleurs. Cette conviction intime et l'espoir que vous, madame, votre mari et tous mes amis penserez quelquefois à moi quand je ne serai plus seront pour moi une source de consolation et de force dans les dernières tortures de l'agonie. La grande cause pour laquelle je suis à la veille de souffrir triomphera. Adieu, madame, soyez heureuse ainsi que votre mari. Vous le méritez tous deux. C'est le vœu d'un homme qui, dans quelques heures, aura sacrifié sa vie au salut de sa malheureuse patrie et à la liberté qu'il préfère à la vie. Je vous dis encore une fois adieu, madame. Votre malheureux mais sincère ami, Chevalier de Lorimier. Nous avons pensé que le meilleur moyen de faire connaître le patriotisme, le dévouement et la grandeur d'âme de Chevalier de Lorimier était de publier ses lettres émouvantes, ces reliques glorieuses qu'on devrait garder comme des trésors. L'histoire honore ceux qui sont morts pour la liberté de leur patrie. Elle recueille leurs dernières paroles, leurs derniers soupirs, et offre tout ce qu'ils ont dit et fait à l'admiration des générations futures. Eh bien, les lettres de Chevalier de Lorimier prouvent que jamais cœur plus tendre, plus dévoué, plus admirable ne battit dans une poitrine de patriote. Que jamais victime ne fut plus pure, plus digne de la reconnaissance d'un peuple. De Lorimier est mort, consolé par la pensée que Dieu et les hommes lui tiendraient compte de son sacrifice. Dieu l'a déjà récompensé, et l'histoire dira, nous en sommes sûrs, qu'il a eu raison d'espérer que son souvenir ne s'effacera jamais de la mémoire de ses compatriotes. Chevalier, salut.
Banni de ses foyers, parcourait en pleurant des pays étrangers, nommé en expirant. Oh mon cher Canada, mon regard languissant vers toi se portera.